Les mémoires d'un âne par la comtesse de Ségur, 7e cassette, c'est la dernière cassette, 2e face. Pierre et Henri poussèrent un cri de terreur qui répondit au cri d'angoisse qu'avait poussé le malheureux Auguste en se sentant tomber. Il se trouvait enveloppé dans le filet qui gênait ses mouvements et qui ne lui permettait pas de nager pour revenir sur l'eau et près du bord. Plus il se débattait, plus il resserrait le filet autour de son corps. Je le voyais enfoncer petit à petit. Quelques instants encore et il était perdu. Pierre et Henri ne pouvaient lui prêter aucun secours, ne sachant nager ni l'un ni l'autre. Avant qu'ils pussent amener du monde, Auguste devait mourir infailliblement. Je ne fus pas longtemps à prendre mon parti. Me jetant résolument à l'eau, je nageai vers lui et je plongeai car il était déjà à une grande profondeur sous l'eau. Je saisis avec mes dents le filet qui l'enveloppait, je nageai vers le bord en le tirant après moi. Je regrimpai la pente, fort escarpée, tirant toujours Auguste au risque de lui occasionner quelques bosses en le traînant sur des pierres et des racines. Et je l'amenai jusque sur l'herbe où il resta sans mouvement. Pierre et Henri, pâles et tremblants, accoururent près de lui, le débarrassèrent non sans peine du filet qu'il serrait, et voyant accourir Camille et Madeleine, ils leur demandèrent d'aller chercher du secours. Les petits, qui avaient vu de loin la chute d'Auguste, arrivaient aussi en courant et aidèrent Pierre et Henri à essuyer le visage et les cheveux d'Auguste qui étaient tout imprégnés d'eau. Les domestiques de la maison ne tardèrent pas à venir. On emporta Auguste sans connaissance et les enfants restèrent seuls avec moi. Excellent cabichon, s'écria Jacques. C'est pourtant toi qui as sauvé la vie à Auguste. Avez-vous vu tous avec quel courage il s'est jeté à l'eau?
Oui, certainement, dit Louis, et comme il a plongé pour rattraper Auguste.
Et comme il l'a habilement tiré sur l'air, dit Elisabeth.
Pauvre cadichon, tu es tout mouillé, dit Jacques.
Ne le touche pas, Jacques, dit Henriette. Il va mouiller tes habits. Vois comme l'eau lui coule de partout.
Oh, ben, qu'est-ce que ça fait que je sois un peu mouillé, dit Jacques, en passant ses bras autour de mon cou. Je ne le serai jamais autant que cadichon.
Au lieu de l'embrasser et de lui faire des compliments, dit Louis, tu ferais mieux de l'emmener à l'écurie où nous le bouchonnerons bien avec de la paille et où nous lui donnerons de l'avoine pour le réchauffer et lui rendre des forces.
C'est très vrai, dit Jacques, tu as raison. Viens, mon cadichon.
Qu'est-ce que c'est que de bouchonner, demanda Jeanne. Tu dis, Louis, que tu bouchonneras cadichon.
Bouchonner, répondit Louis, c'est frotter avec des poignées de paille jusqu'à ce que le cheval ou l'âne soit bien sec. On appelle cela bouchonner parce que la poignée de paille qu'on tortille pour cela s'appelle un bouchon de paille. Je suivais Jacques et Louis qui marchaient vers l'écurie en me faisant signe de les accompagner. Tous deux se mirent à me bouchonner avec une telle vivacité qu'ils furent bientôt en nage. Ils ne cessèrent pourtant que lorsqu'ils m'eurent bien séché. Pendant ce temps, Henriette et Jeanne se relayaient pour peigner et brosser ma crinière et ma queue. J'étais superbe quand ils eurent fini et je mangeais avec appétit la mesure d'avoine que Jacques et Louis me présentèrent.
Henriette, dit tout bas la petite Jeanne à sa cousine, Cadichon a beaucoup d'avoine, il en a trop. Ça ne fait rien, dit Henriette. Il a été très bon, c'est pour le récompenser. Que je voudrais bien repartir, Jeanne, et en prendre un peu. Pourquoi, dit Henriette? Pour en donner à nos pauvres lapins, dit Jeanne. Ils n'en ont jamais et qu'ils aiment tant. Si Jacques et Louis devaient prendre la voix de cadichon, ils se gronderont, dit Henriette. Ils ne me verront pas, répondit Jeanne. J'attendais qu'ils ne me regardent pas. Alors tu seras une voleuse, dit Henriette, car tu voleras la voix du pauvre cadichon. Il ne peut pas se plaindre puisqu'il ne peut pas parler. C'est vrai, dit Jeanne tristement. Les pauvres lapins seraient pourtant bien contents d'avoir un peu d'avoine.
Et Jeanne s'assit près de mon auget, me regardant manger.
Pourquoi restes-tu là, Jeanne? Demanda Henriette. Viens avec moi pour avoir des nouvelles d'Auguste. Non, répondit Jeanne. J'ai mieux attendre que cadichon ait fini de manger. Parce que s'il laisse un peu d'avoine, je pourrais aller la prendre sans la voler pour la donner à mes lapins.
Henriette insista pour la faire partir. Mais Jeanne refusa et resta près de moi. Henriette s'en alla avec ses cousins et ses cousines. Je mangeai lentement. Je voulais voir si Jeanne, une fois seule, succomberait à la tentation de régaler ses lapins à mes dépens. Elle regardait de temps en temps dans l'auget, c'est-à-dire dans la mangeoire.
Comme il mange, disait-elle. Il n'en finira pas. Il ne doit plus avoir faim et il mange toujours. L'avoine diminue. Pourvu qu'il ne mange pas tout. S'il en laissait un peu seulement, je serais si contente.
J'aurais bien mangé tout ce qui était devant moi, mais la pauvre petite me fit pitié. Elle ne touchait à rien, malgré l'envie qu'elle en avait. Je fis donc semblant d'en avoir assez, et je quittai mon auget, y laissant la moitié de l'avoine. Jeanne fit un cri de joie, sauta sur ses pieds, et prenant l'avoine par poignée, la versa dans son tablier de taffetas noir.
« Que tu es bon, que tu es gentil, mon gentil Pélisson, disait-elle. Je n'ai jamais vu un meilleur âme que toi. C'est bien gentil de ne pas être gourmand. Tout le monde t'aime parce que tu es très bon. Les lapins seront bien contents. Je leur dirai que c'est toi qui leur donnes de l'avoine. »
Et Jeanne, qui avait fini de tout verser dans son tablier, partit en courant. Je la vis arriver à la petite maisonnette des lapins, et je l'entendis leur raconter combien j'étais bon, que je n'étais pas du tout gourmand, qu'il fallait faire comme moi, et que, puisque j'avais laissé de l'avoine à des lapins, eux devaient en laisser pour les petits oiseaux.
« Je reviendrai tantôt, leur dit-elle, je verrai si vous avez été bon comme Pélisson. »
Elle ferma ensuite leur porte et courut rejoindre Henriette. Je la suivis pour avoir des nouvelles d'Auguste. En approchant du château, je vis avec plaisir qu'Auguste était assis sur l'herbe avec ses amis. Quand il me vit arriver, il se leva, vint à moi et dit en me caressant.
« Voilà mon sauveur. Sans lui, j'étais mort. J'ai perdu connaissance au moment où Cadichon, ayant saisi le filet, commençait à me tirer à terre. Mais je l'ai très bien vu se jeter à l'eau et plonger pour me sauver. » Jamais je n'oublierai le service qu'il m'a rendu, et jamais je ne reviendrai ici sans dire bonjour à Cadichon.
Ce que vous dites là est très bien, Auguste, dit la grand-mère. Quand on a du cœur, on a de la reconnaissance envers un animal, aussi bien que pour un homme. Quant à moi, je me souviendrai toujours des services que nous a rendus Cadichon, et quoi qu'il arrive, je suis décidée à ne jamais m'en séparer. Mais grand-mère, dit Camille, il y a quelques mois, vous vouliez l'envoyer au moulin. Il aurait été très malheureux au moulin. Aussi, cher enfant, répondit la grand-mère, ne l'y ai-je pas envoyé. J'en avais eu la pensée un instant, il est vrai, après le tour qu'il avait joué à Auguste, et à cause d'une foule de petites méchancetés dont toute la maison se plaignait. Et j'étais décidée à le garder ici, en récompense de ses anciens services. À présent, non seulement il restera avec nous, mais je veillerai à ce qu'il soit heureux.
Oh, merci, grand-mère, merci, dit Jacques. En sautant au cou de sa grand-mère qu'il manqua jeté par terre. C'est moi qui aurai toujours soin de mon cher Cadichon. Je l'aimerai et il m'aimera plus que les autres.
Pourquoi veux-tu que Cadichon t'aime plus que les autres, mon petit chat, dit la grand-mère. Ce n'est pas juste.
Si fait, grand-mère, c'est juste parce que je l'aime plus que ne l'aiment mes cousins et cousines. Et que lorsqu'il a été méchant, que personne ne l'aimait, moi je l'aimais encore un petit peu. Et même beaucoup, ajouta-t-il en riant. N'est-il pas vrai, Cadichon ? Je vins aussitôt appuyer ma tête sur son épaule. Tout le monde se mit à rire et Jacques continua. N'est-ce pas, mes cousins et cousines, que vous voulez bien que Cadichon m'aime plus que vous ?
Oh oui, oui, oui,
oui, oui, oui.
Dirent-ils tous en riant.
Et n'est-ce pas que j'aime Cadichon et que je l'ai toujours aimé plus que vous ne l'aimez ? Oui, 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 oui.
Reprirent-ils tous d'une voix.
Vous voyez bien, grand-mère, que puisque c'est moi qui vous ai amené Cadichon, puisque c'est moi qui l'aime le plus, il est juste que ce soit moi que Cadichon aime le mieux.
Je ne demande pas mieux, répondit la grand-mère en souriant, cher petit enfant. Et quand il n'y sera pas, tu ne pourras plus le soigner.
Mais j'y serai toujours, grand-mère.
Non, mon cher enfant, tu n'y seras pas toujours, puisque ton papa et ta maman t'emmènent quand ils s'en vont.
Jacques devint triste et pensif. Il restait le bras appuyé sur mon dos et la tête appuyée sur sa main. Tout à coup, son visage s'éclaircit. « Grand-mère, demanda-t-il, voulez-vous me donner Cadichon ?»«
Je te donnerai tout ce que tu voudras, mon cher petit, mais tu ne pourras pas l'emmener avec toi à Paris.
Non, c'est vrai, mais il sera à moi, et comme papa aura un château, nous y ferons venir Cadichon.
Je te le donne à cette condition, mon enfant. En attendant, il vivra ici, et il vivra probablement plus longtemps que moi. N'oublie pas alors que Cadichon est à toi, et que je te laisse le soin de le faire vivre heureux.
Conclusion. Depuis ce jour, mon petit maître Jacques semble m'aimer encore plus. Moi, de mon côté, je fis mon possible pour me rendre utile et agréable, non seulement à lui, mais à toutes les personnes de la maison. Je n'eus pas à me repentir des efforts que j'avais faits pour me corriger, car tout le monde s'attacha à moi de plus en plus. Je continuai à veiller sur les enfants, à les préserver de plusieurs accidents, à les protéger contre les hommes et les animaux méchants. Auguste venait souvent à la maison. Jamais il n'oubliait de me faire sa visite, comme il l'avait promis, et chaque fois il m'apportait une petite friandise, tantôt une pomme, une poire, tantôt du pain et du sel que j'aimais particulièrement, ou bien une poignée de laitue ou quelques carottes. Jamais il n'oubliait de me donner ce qu'il savait être de mon goût. Ce qui prouve combien je m'étais trompé sur la bonté de son cœur, que je jugeais méchant, parce que le pauvre garçon avait été quelquefois sot et vaniteux. Ce qui me donna la pensée d'écrire mes mémoires, ce fut une suite de conversations entre Henri et ses cousins. Henri soutenait toujours que je ne comprenais pas ce que je faisais, ni pourquoi je le faisais. Ses cousines, et Jacques surtout, prenait le parti de mon intelligence et de ma volonté de bien faire. Je profitais d'un hiver fort rude, qui ne me permettait guère de rester dehors, pour composer et écrire quelques événements importants de ma vie. Ils vous amuseront peut-être, mes jeunes amis, et en tout cas, ils vous feront comprendre que si vous voulez être bien servi, il faut bien traiter vos serviteurs. Que ceux que vous croyez les plus bêtes ne le sont pas autant qu'ils le paraissent, qu'un âne a tout comme les autres, un cœur pour aimer ses maîtres, être heureux ou malheureux, être un ami ou un ennemi, tout pauvre âne qu'il soit. Je vis heureux, je suis aimé de tout le monde, soigné comme un ami par mon petit maître Jacques. Je commence à devenir vieux, mais les ânes vivent longtemps, et tant que je pourrai marcher et me soutenir, je mettrai mes forces et mon intelligence au service de mes maîtres. Jusqu'à présent, tu m'as entendu parler. Mais maintenant que nous allons nous quitter, je voudrais te chanter quelque chose avec ma belle voix d'âne, cette voix qui fait l'admiration de tous ceux qui l'entendent. Écoute. Des mémoires d'un âne par la comtesse de Ségur. Bien sûr, tu t'en doutes bien, ça n'est pas un cadichon qui a écrit cette histoire. D'abord, les ânes n'ont pas de main pour tenir une plume. C'est la comtesse de Ségur, c'était une grand-mère qui vivait, et il y a bien longtemps maintenant. Cette histoire a été écrite il y a 140 ans à peu près. Et la comtesse de Ségur était une grand-mère qui vivait à la campagne, où il y avait des ânes, et qui avait des quantités de petits-enfants. Et dans ces histoires, on voit ces petits-enfants. Oui, Camille, Madeleine, le petit Jacques, le bon petit Jacques. Tout ça, c'est des vrais petits-enfants de la comtesse de Ségur. Et bien maintenant, c'est la fin de la deuxième face de la septième et dernière cassette des mémoires d'un âne. J'espère que tu as aimé cette histoire et je te dis à bientôt, peut-être, dans une autre cassette. Au revoir.